Oui, bien sûr. Oui, des archétypes, très bien, c'est sûr. Mais de là en faire une gloire de la philosophie juive, ça c'est autre chose. C'est une gloire de la philosophie humaine. Il est d'origine juive, c'est tout à fait autre chose. Voilà c'est ce que la précision que je voulais donner. Vous comprenez ? Et alors, je dis ça parce que il y a des modes. Il y a des modes dans l'histoire de la philosophie. Personne n'était plus une mode. En termes philosophiques, c'est une modalité de la philosophie, pas une mode. Okay. Mais, alors vous avez énormément d'apprentis penseurs juifs qui vont avec la mode. Alors quand la mode est un existentialisme, alors vous avez une bibliothèque entière, le judaïsme est un existentialisme. Quand la mode est à, je ne sais pas quoi, disme, alors ça change. Et vous remarquez de quoi je parle, okay. Et alors... si le vocabulaire de Bergson est séduisant parce qu'il peut faire passer l'idée de créateur, alors on va s'engouffrer dans l'évolutionnisme. Mais on a parlé d'autre chose. Okay. Voilà. Vous avez compris le problème. Okay.
En
même temps,
la traversée
du monde,
Pardon. Ce à quoi on donne naissance. C'est-à-dire qu'il y a un thème là, que vous avez dit de l'autre part, parfois, des qualités, qui sont ceux qui, pour eux, n'ont rien, mais qui donnent aux autres.
Oui, alors je dirais, pas que la valeur se définit, mais comme tu as dit, se juge, c'est-à-dire la valeur est jugée, non pas définie, nommée. Et c'est vrai, et il faut rattacher ça, d'une part, à l'analyse sur la notion de jugement dernier que nous avons eu souvent et aussi hier. Et aussi, à ce à quoi j'ai peut-être fait allusion rapidement, c'est le fait que l'histoire du salut de la création est tout entière solidaire et que notre individualité est une illusion, à un certain niveau. Et par conséquent, il y a le sort d'une lignée qui se joue jusqu'au bout. Et tant qu'on n'a pas le sentiment de cette responsabilité, on n'a pas de sentiment religieux. Je crois que là c'est important à entendre. Et je ne sais pas, oui, je crois que je voulais citer. J'ai entendu parler du rabbin Stenzel, de Rabbi Stenzel de la Gomara. Il a dit un jour une chose extrêmement profonde que j'ai entendue moi de la bouche d'Elie Wiesel, mais c'est Stenzel de tout seul. Il dit on discute qui est juif par rapport aux ascendants. Il dit moi j'ai une réponse. Et juif, celui dont le fils sera juif, alors c'est qu'il était juif. C'est joli, mais bon, c'est l'histoire du Kaddish qu'on a vu là. Alors, maintenant, vous allez me rappeler où je m'étais arrêté, parce que je l'ai terminé, mais je ne sais plus de quoi je parlais. Hein, c'est lui là-bas. De quoi je parlais juste quand... Oui. Alors, vous voyez, ce que je vais expliquer très rapidement, peut-être que nous aurons l'occasion de le voir une fois très en détail, mais on y a fait allusion malgré tout, dans le séminaire entre la culture grecque et la tradition pharisienne. Et c'est très important. C'est que finalement, qu'est-ce que nous dit la définition de la maïeutique ? C'est que le maître n'enseigne pas à l'élève, mais accouche l'esprit de l'élève de ce qu'il y a en lui. Okay. J'ai longtemps réfléchi à cela dans mes études de philosophie, parce que si vous étudiez un dialogue de Platon, où il met la dialectique en œuvre, il est bien évident qu'il y a un aiguilleur du train qui est le maître qui aiguille le rail. Okay. C'est bien évident. Il accouche de l'esprit de son élève. Donc, c'est une stratégie pédagogique, cette manière de présenter la maïeutique, mais énormément de gens s'y laissent prendre et croient que c'est ça qu'ils ajoutent. Vous comprenez ? Et je vais vous dire le piège qui se cache là. Ça voudrait dire que c'est moi qui pose la question, l'élève, moi qui donne la réponse à ma question. Ça ne peut pas ne pas aboutir à la conscience tragique. Parce que quand on est adolescent, on est enivré de cette dialectique, c'est moi qui pose la question, c'est moi qui donne la réponse, et que c'est ça la dignité de l'autonomie de la pensée. Mais quand on arrive à l'âge de la maturité, on découvre de quoi il s'agissait. Que c'est moi qui ai donné la réponse à la question que moi, l'homme, j'ai posée, mais cette question concernait le sens de ma destinée. Elle concernait pas... Le taux d'échange aujourd'hui. Vous comprenez, elle ne concernait pas les futilités. elle concernait le sens de ma destinée, et c'est moi qui réponds. C'est pourquoi le philosophe honnête, authentique, est tragique. Je dirais, il y a une école que les rabbins ont toujours honorée, c'est l'école des stoïciens. Vous savez ça. Autant ils n'aimaient pas les épicuriens, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, autant ils honoraient les stoïciens. Parce que les stoïciens avaient l'honnêteté d'avouer ça. Dans leur... c'est pas les sophistes, les stoïciens. Je parle des stoïciens. Et alors, alors que pour la tradition, c'est tout à fait le contraire. C'est pas le maître qui accouche la pensée de l'élève. C'est l'élève qui accouche la pensée du maître. Et c'est pourquoi il y a sécurité. Est-ce que c'est clair? Je vais vous donner un petit exemple que je vais peut-être citer un jour. Et quand on parle d'une sage-femme, okay, c'est ça la maïotique, la sage-femme. Okay. Or, la sage-femme se dit en hébreu, « Mialedet ». Et c'est l'élève de Talmid. Vous voyez? C'est l'élève qui est la Mialedet, pas le maître. Mialedet, ça veut dire celle qui accouche, qui fait accoucher l'autre. Alors, il y a vraiment là deux discours qui sont basés sur des principes radicalement différents. Mais rappelez-vous peut-être de ça, qui m'a beaucoup frappé quand j'ai pensé. Imaginez n'importe quel rabbin contemporain, quelle que soit sa science. Vous savez, les nains montés sur des épaules de géants. Okay? Et qui vous dit, ici, Rachid ne connaissait pas la grammaire. Dans n'importe quelle ville, vous entendez ça. École juive, vous entendez ça. Okay? Et des nains qui sont montés sur des épaules de géants. Et puis, regarde, vous ne savez pas la grammaire. Et, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Rabbi Akiva a dit, moi je vous dis que c'est comme Armin.
Vous oubliez le tard de
Mégalédède. Le tard. Elle accouche sur le tard. Bien. Alors voilà. Là, maintenant ça y est, c'est caché, hein, il y a Talmid. Alors, je vais essayer d'éclairer un point de l'analyse de ce paragraphe avec un texte du Rashi, qui lui parle de nos problèmes contemporains. C'est un texte apparu il y a au moins une cinquantaine d'années. Mais on sent très bien la filiation du principe. Alors, je vous le lis, vous n'avez pas sous les yeux, on n'a pas eu le temps de le photocopier. J'en lis en tout cas, c'est pas très long, mais j'en lis les phrases principales. Et vous entendez suffisamment? Un nefesh, c'est le poche et Israël. Nefesh, c'est-à-dire le niveau de son être spirituel, de son âme, si vous voulez, entre guillemets. Tout le monde n'a pas suivi les cours de l'après-midi.
Non.
Bon, alors je parle de façon plus récapitulée. Le nefesh, c'est-à-dire la partie de l'âme qui me met en relation avec le monde extérieur. Alors que le ruach, c'est la partie de l'âme qui me met en relation avec le monde supérieur ou intérieur. Alors le nefesh et le ruach. Entendez bien la différence de ces deux. Un nefesh et poche à Israël, c'est l'ekifta de Meshicha. Ça veut dire le nefesh des pécheurs d'Israël de la fin du temps d'exil au moment où les talons du Mashiach se poseront sur la montagne des Oliviers. Pour ça, il fallait d'abord la libérer. C'est cette expression, le temps où on est proche du temps messianique. Otam, cela même, chez Mithavrim Be'ahava, qui sont liés avec amour, et il y en a Klal Israël, aux affaires du Klal Israël, alors de qui s'agit-il? D'hommes qui, à l'échelle individuelle, sont des pécheurs, proche à Israël. Mais qui, voilà, ils sont reliés au sort du Klal. Quel Klal? Ce Klal Israël, à travers qui passe à Ignané et le Klal, alors on ne parle pas de n'importe qui. C'est des drôles de pêcheurs qui sont au service du projet du Créateur. Okay. Alors donc, ces hommes-là, vous les identifiez, okay. Vous voulez qu'on les identifie. Okay. Ils ne pratiquent pas la Torah, seulement ils sont sionistes. Donc, ils s'occupent des affaires du clan d'Israël, les hérites d'Israël, de la terre d'Israël, ou Triataouma, et de la résurrection de la nation. Entendez bien qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle nation, il s'agit de ce dont nous parlons avec Judas Lévi. Ce n'est fait, c'est pour Israël, ceux-là, qui s'occupent du clan, est plus en ordre, saine dans le sens de la santé, non pas sainte dans le sens de la sainteté, mais saine dans le sens de la santé, Mais un nefesh, que ce nefesh cherche Shlomé et Mouné Israël, de ceux qui sont en paix avec la foi d'Israël.
Avec l'humour du Rav.
Chez Lahem Zé Aïtaron, car cela dont on vient de parler. Vous savez, quand je vous ai dit qu'il y a les saints et les sorts, hein? Alors les saints en question, avec un T. Chez Lahem Zé Aïtaron, ce privilège supplémentaire, ce surplus d'être, chez la Argacha Asmi, Dieu, de la sensibilité essentielle et personnelle, Asmi, le Tovat Aklal, du bien du Klal, Klal, je ne traduis plus, c'est clair, Binyan Haouma Ve'are, et de la construction de la nation et du pays, avant la Ruach, mais le Ruach, vous voyez, l'autre niveau de la Neshama, Roumetoukan Arbeyoter, et certes, c'est mon cas qui sait, plus en ordre, et c'est l'Iré Hachem, chez ceux qui ont la crainte de Dieu, les Shomrei Torah au Mitzvah, et qui observent la Torah et la Mitzvah, Afralpi, chez Argacha Asli, bien que la sensibilité personnelle essentielle va être revérue chez le Kohar Seoula d'Einyan Eklal Israël, et que l'éveillement, l'enthousiasme pour agir dans les affaires du clan Israël, Enan Adaïm Amitit Islam, n'est pas encore basé chez eux. On a en présence deux personnages. Quelqu'un qui ne pratique pas la Torah mais s'occupe du clan d'Israël, son nefesh, dit le Rav, est en ordre. Mais, et l'autre, celui qui pratique la Torah mais s'occupe pas du clan d'Israël, c'est son rouach qui est en ordre. Bon. Et alors ensuite, c'est dommage, je ne vais pas prendre tout le temps pour vous dire tout ça, mais je vous donne la référence. Et peut-être je vais demander à Pierre ou à. Plutôt à Pierre qu'à Michel, d'ailleurs, enfin à Pierre. Et à Michel, de vous le faire étudier, c'est. 84, page 84 de Horoth. Alors, vous voyez les deux personnages en présent. L'un a un nefesh en ordre et le rouach malade. L'autre a un rouach en ordre, mais le nefesh malade. Qui est plus gravement malade ?
Le nefesh malade.
Si, vous avez raison. C'est lui qui a le nefesh malade. Pourquoi ?
Parce qu'il faut défendre
l'infini. Exactement.
Pourquoi ?
C'est-à-dire que, vous voyez, les deux personnages, c'est, je vais mettre ça comme ça. Alors, ici, il y a le personnage A, celui qui s'occupe du clan, Ken, et mais ne pratique pas la Torah.
C'est un effet chien, non ?
Et là, le,
hein ? Celui qui s'occupe du clan qui ne pratique pas la Torah.
Non, les deux ont un effet chien rouard. Après, je vais vous les colorer. Et celui-là, c'est celui qui s'occupe de la Torah, mais pas du clan. Alors la Rav nous dit, celui-là a un nefesh en ordre. Et un rouach entre parenthèses.
Le premier.
Oui, le premier. Le deuxième, il a un rouach en ordre. Et le nefesh est entre parenthèses. Alors, ça c'est la suite du paragraphe. Lequel des deux est à plaindre ? Il est évident que c'est celui-là. Pourquoi ? Comme vous avez dit. Parce qu'un rouach qui n'est pas basé sur un nefesh, mais tout comme, qui n'est pas basé sur un nefesh en bonne santé, ce rouach lui-même, par contagion, devient malade. Est-ce que c'est clair ? De la même manière qu'ici.
C'est le deuxième alors qu'il faut, non ? Le premier.
Je vais plus expliquer après. Donc, alors qu'ici, le fait que le rouach soit malade, ça influe aussi sur le nefesh. Donc les deux sont malades. Il y a un cas d'urgence. Celui-là a une chance un jour d'arranger son rouach. Mais celui-là, comment il va faire ? Il est en train de s'occuper plus haut. Alors, un jour, la pyramide s'écroule complètement. Parce que le nefesh. Est-ce que vous comprenez le problème ? Et c'est ce que nous voyons dans l'expérience. C'est ce que nous voyons dans l'expérience.
Là, parce qu'il n'y avait pas de position intermédiaire.
Il y a toutes les positions intermédiaires. Parce que ça se influe l'un sur l'autre. Chacun est à un niveau très différent de cette équation-là. Mais je schématise pour dire que, dans ce sens-là, il y a un espoir. Mais non, celui-là, c'est grave. Parce que finalement, ça ne peut qu'aller de plus en plus haut et se couper du commencement, de la base, comme vous avez dit. Dis-moi, qu'est-ce qui est pire ? Un golem qui peut devenir haram ou un fantôme ? Et c'est un fantôme, une âme sans corps. Vous avez compris ? Remarquez, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se donner un corps. Ils appellent ça le corps rabbinique. On est compris ça d'ailleurs, pourquoi ils appellent ça le bon, alors on revient au sujet. À la fin du paragraphe, le Rav dit, ça c'est le travail d'Eliyahu HaNavi. Ce n'est que lorsque ceux-là seront capables de donner leur nefesh à ceux-là, et ceux-là seront capables de donner leur roi à ceux-là, que les deux se guériront et que le Mashiach pourra se dévoiler. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire, il doit mettre le pied gauche quelque part, le pied droit quelque part. Mais il n'y a pas d'endroit pour mettre le pied gauche, il n'y a pas d'endroit pour mettre le pied droit, parce que des deux côtés, c'est... C'est ici, les gens. Une minute que je calcule aujourd'hui. D'accord. Et lui, je téléphone. Lui, je téléphone, mais elle... à l'hôtel. Bon, on revient à Paris. Voilà à peu près le problème. Il dit, ça, c'est le travail des Seigneurs en avis de réconcilier les uns et les autres. Ben justement, c'est ce que j'avais ajouté. Et là, rajoute, mais puisque l'on est fait chez mes rouages, on dit alors le roi aussi est malade, malgré les apparences. Et c'est vrai.
Et c'est vrai.
Absolument. Absolument. Mais là, bon, je pense que le schéma est suffisamment clair. Malheureusement, c'est un schéma israélien. Bien, allez, on revient donc maintenant à la... vous savez, je vais vous dire, comme pour le Mashiach, comme pour Eliyahu HaNavi, comme pour Moshe Rabbeinu, comme pour Abraham, il y a des grands et il y a des petits. Il faut que les petits préparent la possibilité des grands. Il faut faire ça en petit avant de faire ça en grand. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut faire. Enfin, actuellement, si vous voulez, nous avons la réémergence, l'insurgence de ces deux lignées de valeurs. Les valeurs nationales et les valeurs de la Torah. Elles ne sont plus à réinventer. Elles sont à développer, épanouir. Le véritable problème, c'est de les relier, de les unifier. Vous comprenez? De nouveau, nous retrouvons ce schéma en quatre directions. C'est la position de chaque juif par rapport à Moïse. Moïse a eu deux vocations. La vocation historique, de construire la nation d'Israël en mettant fin à l'exil. Ça, c'est le Moïse de la sortie d'Égypte. Et la vocation, disons religieuse, spirituelle, de faire que le Inyan HaEloki puisse animer ce véhicule-là, mais il n'y en a pas d'autre véhicule. Et alors, vous avez des juifs qui acceptent Moïse de la sortie d'Égypte, mais pas celui de la Torah. Vous avez des juifs qui acceptent le Moïse de la Torah, mais pas celui de la sortie d'Égypte. Vous avez des juifs qui acceptent ni l'un ni l'autre, mais ils sont juifs. Parce que leur grand-père et leur petit-fils, ils sont juifs. Et puis vous avez, grâce à Dieu, des juifs qui acceptent les deux. Et c'est ça qu'il faut arriver à dérouler, mais il y a un ordre d'urgence. Le premier à construire, c'est celui-là. Le deuxième vient après. La sortie d'Égypte a eu lieu avant le Sinaï.
Le premier, c'est lequel il faut construire?
Le premier, c'est la sortie d'Égypte. C'est construire la nation d'Israël. Et vous savez que le Rav qui parle ici, en disant cela, le Rav Kook, le père, c'est une des plus grandes autorités religieuses que l'histoire d'Israël n'a jamais connue. Mais c'est lui qui parle comme Ben Gurion.
Quand vous avez parlé tout à l'heure du père et de la mère, est-ce que ce serait trop éloigné de votre sujet à propos de cet échange de l'Esprit et de la foi que parler de l'échange de l'Esprit et d'une Esprit entre l'homme et la femme?
Allez, je vais vous poser une colle. Où est la femme, où est l'homme?
Oh, la femme est à la base. Elle s'occupe de choses matérielles. Il faut manger trois fois par jour quand on a des mots.
Très bien, et tout ce qu'il y a derrière.
Voilà.
C'est un peu schématique, mais ça va dans ce sens. Schéma béni, Moussara Bicha, Béaltitosh, Torah Timer. C'est évident que ça commence par la fin. Oui.
Dans le même ordre d'idée, c'est l'enseignement du Rav Kook. Or, quelqu'un m'a dit que à peu près 25% des étudiants de la Yeshiva se désintéressent de la nation israélienne, évidemment.
Et la yeshiva du Rav Kook ?
Non, sûrement pas. Non, non, non. Les autres yeshivotes, mais de plus en plus...
C'est 75%, c'est pas... Vous m'avez étonné, c'est 75%.
Non, pas tous, mais il y a une...
Il faudrait dire 75% des élèves des yeshivotes en général.
À quoi cela tient par rapport à l'enseignement du Rav Kook ?
Mais non, mais...
Ils n'ont pas conscience, donc... De...
Nous ne sommes pas du tout dans le peuple du Rav Kook. Et je ne sais pas comment vous savez, le Rav Diel, qui était un des grands Rishonei Tzion de Sfaradi, autant du Rav Kook d'ailleurs, quand le Rav Kook était le rabbin des Ashkenazim, le Rav Diel, le rabbin des Sfaradi, a dit une chose qu'on vous a peut-être citée, peut-être même en d'autres noms, mais c'est d'où ça vient. Dit au fond, vous savez très bien, nous attendons deux messies. Un Messie qui doit faire sortir les Juifs de l'exil et un autre qui doit faire sortir l'exil des Juifs. Alors nous sommes dans ce processus-là. Alors vous avez des Juifs qui sont sortis d'exil mais qui en est l'exil avec eux. Et ils sont là, ici, là.
Oui, moi je voudrais que vous représentiez ça autrement. Seulement les deux exemples. Celui d'un Juif très pratiquant dont la vie quotidienne, je dirais, n'est pas conforme à l'esprit de la Torah, ça existe. Et des gens, des juifs non pratiquants.
Exactement.
Et dans leur...
C'est très clair, c'est dans le même sujet.
Dans le même sujet.
Dans le même sujet. Et je vais vous dire, et les uns et les autres ne sont pas à l'aise dans leur peau. Seulement, il y en a un qui est en ordre, dans l'ordre des vertus. Et l'autre est décalé et très artificiel. Vous savez, c'est cette sensation que nous avons, qu'on est arrivé à un stade, et c'est le signe qu'on s'est coupé de la tradition, qu'il faut se donner un certain air sur le visage ou sur les habits pour dire « je suis juif hein, » ou « je suis religieux », je ne sais pas quoi. « Je suis croyant et ayez peur de moi hein. ». On se met un masque de sorcier, même si le masque est en bandoulière, et pour dire « tu sais, je suis ». Il y a dans la Gemara le problème des soutanes des rabbins. Hein. Oui. La Gemara de Babel, il dit à Babel, il fallait s'habiller en rabbin. Parce que la Torah n'était pas chez elle. Alors il fallait lui donner une étiquette. Alors qu'en Eretz Israël, on ne s'habille jamais en rabbin, on s'habille en juif. Vous comprenez ce que je dis ? Et là, ça va un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire, ça prend une espèce de situation artificielle. Et c'est à cette condition artificielle que beaucoup de sociologues contemporains se sont attachés. Et pour parler de la condition juive, et nous, d'Israël, on assiste avec beaucoup d'inquiétude à ce fait que beaucoup de penseurs juifs contemporains de diaspora magnifient cela, le fait que l'identité juive soit une condition marginale. Ça fait partie de cette maladie de l'artificiel, vous savez ? Quoi, il faut être marginal pour être juif, alors que Dieu nous a mis au centre ? Vous comprenez qu'on a perdu la santé dans cette histoire. Alors vous lisez tous ces livres que être juif, c'est être tordu. Alors il faut être tordu, continuons à être tordu. C'est la condition juive de l'exil qui s'est instaurée comme idéal. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Et alors, bon, l'humanité au sein de laquelle ça se passe, a beau être libérale, un jour elle secoue les épaules. Qu'est-ce que c'est que c'est tordu ? Vous avez compris pourquoi je bouscule le sujet, mais on pourrait souvent entendre « Vive Israël, abat les Juifs ». Ça vous arrive d'entendre ça okay. Ben, peut-être ça sort un peu de cette espèce de malaise. Je me souviens d'une des dernières conversations que j'ai eues avec Friedman, le sociologue. Son prénom, c'est Finlandais. Georges Friedman. Et quand il a écrit Israël, fin du peuple juif, il avait fait un voyage en Israël pour avoir des échos. Il a rencontré beaucoup d'Israéliens d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai eu vraiment le privilège de connaître un très grand homme. Il est mort depuis. Et j'ai dit, mais vous savez, monsieur Ashkenazi, on me dit toujours que j'accuse Israël d'être la fin du peuple juif. J'ai mis un point d'interrogation, je pose une question. Fin du peuple juif, point d'interrogation, je lui dis tranquillement, enlevez-le, votre point d'interrogation. C'est vrai qu'Israël, c'est la fin du peuple juif et c'est un bien. En quel sens ? C'est la fin de cette condition sociologique anormale de l'histoire qu'on appelle l'histoire du peuple juif, qui est entre deux histoires de la nation hébraïque, celle de l'Antiquité et la nôtre. C'est une parenthèse de survie, mais c'est une parenthèse qui peut refermer. Est-ce que vous comprenez la polémique que ça peut déclencher, mais c'est ça le problème. Okay. Et alors il était un peu étonné, ensuite rassuré d'ailleurs. Il y a une espèce de confusion entre les valeurs juives et la condition juive, et pourquoi faire cette confusion-là? Ça n'a rien à voir. Les valeurs juives, c'est l'hébreu. Et la condition juive, c'est l'exil. Alors il ne faut pas faire cet amalgame. Hein. Alors je dis, vous dites fin de l'histoire juive, du peuple juif, dans ce sens-là, enlevez votre point d'interrogation.
On est tout le temps dans le dilemme. Vous avez déjà parlé de ça, mais vous avez répondu ça, demandez à M. Blanc. Parce que encore maintenant, je reçois une lettre d'une amie tristement orthodoxe de Brooklyn, qui a dit que sa petite fille va pour un an en Israël, elle a très très peur parce qu'elle va perdre sa foi.
Je veux dire, cette terre s'appelle dans la Torah Eretz Ocheret Yoshvea. C'était dans la bouche des explorateurs, la paracha de la semaine, ici, parce que nous on a vu ça la semaine dernière. Là. On a un décalage, les nouvelles nous arrivent en retard. Et alors, c'est une terre qui oblige les hommes et les femmes à être ce qu'ils sont. Alors, vous comprenez, c'est une terre de décatalyseurs.
Aussi, vous avez les sionistes qui sont
en théorie. Bien sûr, c'est ce que je dis tout à l'heure. Nous avons ramené tous nos problèmes de galoute, mais c'est là-bas que ça se passe, l'épuration en laboratoire, c'est pas ailleurs. Nous sommes, vous savez, que, si vous voulez, je vais vous dire une énormité. Israël a un péché originel. Il a été créé par des juifs. Il a tous les problèmes juifs, mais là-bas ils sont sérieux, dans la perspective d'une solution. Ici, ça tourne en rond dans des idées de philosophes. Et vous avez absolument raison. Je vous raconte une anecdote, je raconte souvent à mes élèves. J'ai un ami qui a fait partie d'une famille des fondateurs de Petah Tikva. Il y a quelques années, ça fait déjà un peu plus d'une dizaine d'années, dans une conversation, il m'a dit très en colère. Tu te rends compte, on est obligé de mettre des serrures sur les portes. Alors je lui dis pourquoi? Il m'a dit, ben les juifs sont arrivés, il faut mettre des serrures sur les portes. Vous avez compris l'histoire? J'ai dit, les pionniers qui ont fondé les Israël, ce qu'on appelle les pères fondateurs. Alors un jour, finalement, les juifs sont arrivés. Alors on a été obligé de mettre des serrures sur les portes.
Quoi, les voleurs?
Bon, c'est un peu schématique, mais il y a beaucoup de ça. Vous savez que chaque année, les universités reçoivent depuis X années des étudiants de l'étranger. Dès que ça a commencé à se répandre ce programme, il y a eu un problème de drogue en Israël chez les jeunes. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est les juifs qui amènent tous les malheurs en Israël, mais essayez de comprendre le processus. Il y a un Erevrav qui s'amène, et les bnés d'Israël sont confrontés au Rodor. Puis qui c'est qui a amené les dépôts juifs en Israël? Eh bien, c'est les juifs. Bon, je vais vous dire ça autrement. Je veux dire ça. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Vous ne croyez pas que je suis anti-juif. Ma mère, elle entendait ça. Je veux dire, je crois tout simplement, il faut voir ça avec un peu d'humour, mais les choses sont ainsi. Les Israéliens ont les qualités des Israéliens et les défauts des Juifs. Et les Juifs ont les défauts des Juifs et les qualités des Israéliens. Mais dans un cas, c'est en potentiel comme ça, en réalité comme ça. Dans l'autre cas, c'est en réalité comme ça, en potentiel comme ça. C'est un peu, ça ressemble aussi un peu à ça. Bien, on finit de faire de l'histoire juive, et on revient donc à notre texte de Kuzari. Cette fois, vous prenez l'autre. Quel est le numéro de la page? 40? Non, 60? Nous? Là, on voit le problème de la terre? Oui, le problème de la terre. Voilà, je crois qu'on est un peu à l'aise dans nos textes, puisqu'on a encore la séance de demain matin. Et dimanche matin, nous ferons la récupération du texte de l'après-midi. Je vous demanderai d'ailleurs, jusqu'à dimanche, de réfléchir à des propositions de sujets de séminaires éventuels pour l'année prochaine. Et on prendra 5 minutes pour en parler. Voilà, je propose de commencer le texte à la page Moumbet, à la fin du troisième paragraphe. Les derniers mots, et on va enchaîner. Voilà, vers la fin de ce paragraphe, Gisalesi reprend une définition que, à travers les individus, je schématise, le Inyan Eloki, à travers la Neshama de chaque individu, fonctionne comme un nitot, au milieu de l'avant-dernière ligne du dernier paragraphe, nitot, comme une étincelle hors Eloki, ou de lumière divine, à Poel al-Hama Eloka, qui agit sur le peuple de Dieu, Be'ere Tsaeloka, sur la terre de Dieu. Bon, là nous avons la charnière de nos deux problèmes. Alors le Kuzari demande, Amara Kuzari, Masha Amarta Arama Eloka, ce que tu as dit, le peuple de Dieu, Kvar Mizbareri, ça m'est déjà un peu clair. C'est moi qui ajoute un peu. Oulam, mais Masha Amarta, ce que tu as dit, Be'ere Tsaeloka, sur la terre de Dieu, Kacheli les Kabelzo. Ça m'est difficile à comprendre, à accepter. Alors c'est là que nous allons commencer. Réponse du Kuzari. En kolkoshi. Réponse du Haber. En kolkoshi. Il n'y a aucune difficulté. Les kabel et anacha d'admettre le postulat qui est achat, c'est achat, qui est achat, qu'une terre particulière, une parmi les autres, Nityahda Bidvarma, a une spécificité particulière. Nityahda se distingue comme unique en quoi que ce soit par rapport aux autres. Et il va s'expliquer. Mishéar Kolarato, des autres terres. Halo Be'enechatire, n'est-ce pas que tu vois par toi-même, Kimakomechad, qu'un endroit quelconque de la terre, Tov Mishéar Kolamekomot, est meilleur que d'autres, que tous les autres endroits, les Tsemach Miuchad, pour tel ou tel végétal. Vous comprenez déjà l'image et où cela va. Le Mertsav Miuchad, ou le Chai Miuchad. Comment traduire Mertsav? Vous avouez que la traduction m'échappe. Bon, il y a le végétal. Peut-être le minéral, mais pourquoi l'ordre comme ça, je ne sais pas. Bon, il faudra vérifier. Ou le chai miyuchad, ou à telle espèce animale. Vetoshavav miyuchadim betsuratam. Et que ses habitants sont miyuchadim, particuliers, dans leur apparence, dans leur forme. Ou bemidotam. Et dans leur caractère, dans leur comportement, Mishéar Kolanachim des autres. Ça veut dire qu'il y a une multiplicité des espèces, au niveau végétal, au niveau animal, et même dans l'espèce humaine, qui est quand même reliée. Vous retrouvez un peu ici la théorie des climats de Montesquieu. Enfin, Judas Lévy est avant, bien sûr, mais c'est pas tellement ça le problème. Judas Lévy va souvent parler du climat. Et je pense que ça doit éclairer ce que Montesquieu veut dire en disant le climat. Ce n'est pas seulement la température. Okay? Et tout cela par l'intermédiaire de l'équilibre, de la composition des humeurs, Asher Bagouf, qui sont dans le corps, qui va mezegazé. Donc on est renvoyé encore au problème de la carte d'identité génétique, de l'indice personnel, individuel, de chacun dans sa contexture. Tenuim gam shlemut anefesh vehesron. Car de cela dépend aussi l'intégrité du nefesh, ou, au contraire, ses manques. Alors nous sommes en plein dans un principe qu'on appellerait psychosomatique. Mais Jésus allait dire beaucoup plus loin en disant que le corps est finalement distillé par tel ou tel paysage. Sens de distillation, si vous voulez, de tel ou tel paysage. Imaginez, je ne sais pas, imaginez un turban hindou dans l'Alaska. Non, ou l'inverse. Un chapeau hongrois à Mea Shearim. Ah oui, c'est-à-dire, ça fait partie de ce problème que nous avons une réhébraïsation à faire du point de vue de la relation au paysage aussi. C'est bien évident. Les choses sont beaucoup plus vastes dans ce que nous allons voir. D'abord, le premier principe. Il faut comprendre que chaque manière d'être homme correspond à une manière d'être terre, si on peut le dire comme ça. Et c'est comme ça que parlent les versets de la Bible. Dans la grande dispersion humaine qui a commencé après l'échec, la civilisation de la tour de Babel, d'Ora Palaga, alors le verset dit que les nations se sont disséminées sur terre, chacune d'entre elles suivant leur langue et leur pays. Et il faudrait dire ici paysage en même temps que pays. L'Ilshonotéhem ou le Arsotam. Chaque famille, les Mishperotéhem, l'Ilshonéhem, les Arsotam. Chaque famille avec sa langue et son terroir. Tout ce qui fait l'identité concrète du personnalisme de chaque manière d'être homme au sein d'une collectivité. Dans les temps très très diasporisé au niveau des individus de la culture contemporaine, on ne perçoit plus ces réalités collectives de lien à un terroir.
Le français permet de dire les lignes d'un paysage, lignes à double sens, c'est la ligne de l'ethnique.
En ajoutant lignée aussi, avec. Et une minute, pourquoi? Parce que nous sommes devenus cosmopolites. Je ne parle pas seulement des juifs. La civilisation occidentale a tendance à devenir cosmopolite. Alors ces réalités-là semblent occultées, mais elles ne peuvent pas disparaître et elles se vengent. Elles réagissent, finalement, si elles sont violées. Et je me souviens de la philosophie d'Emmanuel Mounier, le personnalisme. Vous vous rappelez de ce temps-là? Bon, il n'est pas allé jusqu'au terroir, mais pourquoi? Probablement parce que ça allait de soi pour lui. Il n'y a que quelqu'un du terroir qui peut formuler une philosophie personnaliste. On revient au perjou, c'est un peu. Bien. Donc, il n'a pas encore parlé des rites israéliens, mais admettez le principe en général que chaque paysage a sa spécificité de cru, si j'ose dire, et de cuivre. Si j'ose dire. Qu'est-ce que vous dites? Nous, là, c'est un autre problème. Un autre problème, c'est d'autres règles. Okay. Absolument. Et toute la terre est la terre. Toute la terre est la terre. Quand quelqu'un vient sur terre, il peut venir n'importe où. C'est un autre verbe. Mais ici, nous sommes sur un point très, très important. Il y a des manières d'être homme parce qu'il y a une orientation de la terre. Il y a une spécification de la terre. Il y a des terroirs. Et chaque homme est premièrement, en principe, l'homme d'un terroir. Je me souviens d'avoir eu pour la première fois cette expérience. Je vais essayer de vous la décrire. Je sais pas, j'y arriverai peut-être pas, il faudrait un phénoménologue pour décrire ces choses-là. Bien. Moi, comme vous le savez, je suis originaire d'Algérie, j'étais habitué à un certain paysage, qui est le paysage algérien, avec comme habitant normal ce qu'on appelait en français les indigènes, dont nous étions d'ailleurs, et un certain paysage cohérent. Là-dessus, il y avait la ville européenne qui faisait un peu pièce rapportée, artificielle, c'était l'Europe. L'Europe en Algérie. Ville européenne très 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 différenciée, avec des quartiers naturels, là où il y avait les Espagnols, les Maltais, les Italiens, là où il y avait les Français. C'est pas que ça faisait artificiel, ça faisait évidemment l'Europe en Algérie, je veux dire la métropole dans la colonie. Bon, vous comprenez ce que je veux. Et alors, la première fois que j'ai pu traverser un paysage de France, c'était pendant la guerre, quand on a débarqué pour libérer la France, et puis on a traversé la route Napoléon pour remonter sur l'Alsace. Et je me rappellerai toujours les yeux écarquillés que j'avais. J'avais l'impression de marcher sur des cartes postales en étant JMC. Mais je me sentais étranger à la carte postale. Je ne sais pas comment on est. C'est une carte postale cohérente, avec son paysage, sa couleur de ciel, sa couleur de terre, les arbres, les animaux et les hommes du même paysage. Et puis moi, comme juif, je me sentais étranger.
C'est là que j'ai compris un peu cette différence de sentiments existentiels. Étranger quoi? Pas à la France, je me prenais pour un citoyen français, que j'étais d'ailleurs, je suis encore. Mais au paysage. Vous comprenez? Voilà, c'est un peu de cela qu'il est question.
Ça veut dire qu'il y a des paroles dans le
paysage? Oui, il y a un langage très profond. Il y a un langage d'accueil de l'étranger aussi, mais en tant qu'étranger. Okay. Ma femme est née à Paris. Par conséquent, ces paysages-là lui sont connaturels. Imaginez sa surprise quand elle s'est rendue compte que son véritable paysage, c'était celui d'Israël et pas de sa Pologne, de ses grands-parents. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire, ces choses dont parle Judas Lévi, un jour ça ressort. On est la manière d'être homme d'un terroir, même si on a été déraciné et transplanté pendant 2000 ans. C'est ça le mystère de la permanence juive. Elle est le mystère de la permanence hébraïque. C'est ça, et pas autre chose.
Il y a aussi le mystère des gens comme Lionel, qui vont jusqu'à transformer leur partie de France en Jérusalem, en y retrouvant, soi-disant, des choses du paysage de Jérusalem.
Oui, à sa manière et à travers son expérience et son habitude. Ça a existé mille fois en Espagne, au Portugal, en Pologne, en Russie, partout. Et ça a fait les styles juifs dont on a dit qu'ils étaient le modèle de la fidélité. Et, si vous voulez, il y a même des endroits pièges, je crois l'Espagne, okay, parce que les juifs espagnols ont été à un certain moment persuadés qu'il y avait une erreur de distribution géographique et qu'Eret Israël, c'était Saragosse. Okay. Et il y en a qui sont encore persuadés. Okay. Et il y a des coins au Maroc où si on fermait les yeux, on dirait « Quoi, c'est pas ici Eret Israël, point net sur le Moi, en Algérie ou en Tunisie, peut-être, j'ai senti ça, surtout au Maroc. Hein. Et je crois qu'il y a des magnétismes de terroir qui présentent des analogies. C'est normal. On peut aussi les fabriquer à travers des siècles, en modelant le paysage, par sa propre présentation, d'ailleurs. Et très probablement, il y a des petits morceaux d'Eretz Israël disséminés, au point qu'il y a des Juifs qui ont appelé ça la Jérusalem de Lituanie, la Jérusalem de... C'est tout ce que vous voudrez. Il y a quelque chose de cet ordre, parce que finalement la Terre en tant qu'organisme est un organisme un. Mais il y a quand même un cœur des choses qui était avec Israël, et là, c'est radicalement autre, va nous apprendre Judas Lévi.
Donc, l'histoire est un domaine très particulier, donc peut-être que vous voulez dire, un des amis qui noirs s'est entendu un jour dire par un arabe du fond de sa sagesse, vous êtes venu, vous repartirez. De même, les habitants restés en Palestine, tout le temps du mandat, auraient pu dire au premier sioniste, vous êtes parti?
Vous reviendrez, absolument. Absolument. Et absolument. Je vous raconter encore une petite anecdote, c'est la semaine des confidences. J'ai participé au débarquement en France à Saint-Tropez. Ça a été mon premier visage de la France au débarquement. Et alors, je me souviens très bien, on arrivait pendant la nuit, on a débarqué le matin, et on était sur le pont du navire, là, on attendait les côtes de France. Et puis, il y avait autour de moi des officiers français. On était habillés en américain pour le débarquement. Okay. Ils ont sorti de leur sacoche le képi français, ils ont enlevé le casque américain, ils ont mis le képi français, et ils sont mis à pleurer. Moi, j'étais très ému, la France, mais j'ai pas pleuré. Ça a commencé à me faire réfléchir. Mais quand moi je suis arrivé à Haïfa en bateau, j'ai pleuré. Et 2000 ans après, alors que eux, ça faisait 7 ans. Donc, c'est de ça que parle Judas Lévi. Il y a quelque chose qui se passe dans le lien entre une manière d'être homme et son terroir. Alors vous allez me dire, oui, mais parce que tu as appris ça au Talmud Torah qu'il faut pleurer en arrivant à Haïfa. Mais vous avez des durs à cuire qui sont arrivés pour s'engager dans le Sahal, qui n'étaient jamais au Talmud Torah. Et qui ont pleuré peut-être plus que moi. C'est quelque chose qui travaille, et dont Judas Lévi nous parle. On pourrait, au niveau de la culture générale, trouver les mêmes catégories dans Montesquieu. C'est-à-dire, il faut redécouvrir ça. Ce qui nous est arrivé, c'est juste arrivé là. C'est qu'on est devenu cosmopolite. Et ça, c'est très dangereux. On ne pleure plus que lorsqu'on rentre à la banque. Pour la faire sauter. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors on continue. Car gam areches, areches, ve, c'est chanoak. Ah, quelqu'un. Alors que vous avez dit, oulam, ani lo shamarti, c'est l'humour de Judas Lévi, sûrement. Mais, dit le Kuzari, moi je n'ai jamais entendu, qui est le Hanshéret et Israël, qu'il y a aux gens d'Eret Israël, Itron al-Shehar Bene Adam, une supériorité quelconque sur les autres hommes. Il n'y a pas les journaux, celui-là.